Aristote, Métaphysique, livre 8, chapitre 1 à 3. Chapitre 1. Il nous faut maintenant tirer les conséquences de ce que nous avons dit et, reprenant sommairement chaque point, arriver à la conclusion. Nous avons dit que nous cherchions les causes des substances, leurs principes et leurs éléments. Parmi les substances, les unes sont universellement admises, d'autres, au contraire, ne sont reconnues que par quelques philosophes. Les substances universellement admises sont les substances physiques, par exemple le feu, la terre, l'eau, l'air et les autres corps simples. Ensuite, les plantes et leurs parties, les animaux et les parties des animaux. Enfin, le ciel et les parties du ciel. Les substances qui ne sont admises que par quelques philosophes sont les idées et les êtres mathématiques. Il y a encore, comme nous l'avons montré, d'autres substances, la forme substantielle et le sujet. De plus, le genre, avons-nous dit, est plutôt substance que les espèces, et l'universel que le particulier. Les idées sont analogues à l'universel et au genre, car c'est au même titre qu'elles sont regardées comme des essences. La forme substantielle étant une essence, et sa notion étant renfermée dans la définition, nous avons dû déterminer ce que c'était que la définition et l'être en soi. Et comme la définition est l'expression de la notion de l'être, et que cette notion a des parties, il était nécessaire de s'occuper des parties, de voir lesquelles sont parties de la substance, lesquelles ne le sont pas, et enfin, s'il y a identité entre les parties de la substance et celles de la définition. Puis, nous avons vu que ni l'universel ni le genre n'étaient des substances. Quant aux idées et aux êtres mathématiques, nous nous en occuperons plus tard, car quelques-uns en font des substances indépendantes des substances sensibles. Occupons-nous maintenant des substances unanimement reconnues. Ce sont les substances sensibles, et les substances sensibles ont toute une matière. Le sujet est une substance, soit qu'on le considère comme matière, et par matière j'entends ce qui est en puissance tel être déterminé, mais non pas en acte, soit qu'on le considère comme la forme et la figure de l'être, c'est-à-dire cette essence qui est séparable de l'être, mais séparable seulement par la conception. En troisième lieu, vient l'ensemble de la matière et de la forme, qui seul est soumis à la production et à la destruction, et qui seul est complètement séparable. Car, parmi les substances que nous ne faisons que concevoir, les unes sont séparables, les autres ne le sont pas. Il est donc évident que la matière est une substance, car dans tous les changements du contraire au contraire, il y a un sujet sur lequel s'opère le changement. Ainsi, dans les changements de lieu, il y a ce qui maintenant est ici et plus tard sera ailleurs. Dans les changements par augmentation et diminution, il y a ce qui maintenant a telle grandeur et plus tard sera plus petit ou plus grand. Dans les changements par altération, il y a ce qui est aujourd'hui sain, demain, malade. De même pour la substance. Il y a ce qui maintenant se produit et plus tard ce qui se détruit. Ce qui est actuellement sujet comme être déterminé et sera plus tard sujet par privation. Tous les autres changements accompagnent toujours ce dernier, la production et la destruction. Celui-là, au contraire, ne se trouve pas nécessairement joint à un ou plusieurs des autres. Car il n'y a pas nécessité que quiconque a une matière qui occupe un lieu, cette matière soit sujette à production et à destruction. Quelle différence y a-t-il entre la production simple et celle qui ne l'est pas? C'est ce que nous avons dit dans les traités relatifs à la nature. Chapitre 2. Puisqu'il y a accord unanime relativement à la substance considérée comme sujet et comme matière, et que cette substance n'existe qu'en puissance, il nous reste à dire ce que c'est que la substance en acte des objets matériels. Démocrite paraît penser qu'il y a entre les divers objets trois différences essentielles. Le corps, sujet commun en tant que matière, est un et identique. Mais les objets diffèrent, ou par la configuration, c'est-à-dire la forme, ou par la tournure, laquelle est la position, ou par l'arrangement, c'est-à-dire l'ordre. Mais il y a, ce semble, un grand nombre de différences. Ainsi, certaines choses résultent d'une composition matérielle, celles, par exemple, qui proviennent du mélange, comme l'hydromel. Dans d'autres, entrent des chevilles, un coffre, par exemple. Dans d'autres, des liens, ainsi un faisceau. Dans d'autres, de la colle, comme le livre. Dans quelques objets, il entre plusieurs de ces choses à la fois. Pour certaines choses, il n'y a différence que de position. Ainsi, le seuil de la porte et le couronnement. Différence de temps, le dîner et le souper. Différence de lieu, les vents. Les objets peuvent différer aussi par les qualités sensibles, la dureté et la mollesse, le dense et le rare, le sec et l'humide. Les uns diffèrent sous quelques-uns de ces rapports, les autres sous tous ces rapports à la fois. Enfin, il peut y avoir différence en plus ou en moins. Il est évident d'après cela que l'être se prendra tout autant d'acceptions que nous avons signalées de différences. Tel objet est un seuil parce qu'il a telle position. Être, pour lui, signifie être placé de telle manière. Être glace signifie, pour l'eau, avoir telle densité. Dans quelques circonstances, l'être sera déterminé par toutes ces différences à la fois, par le mélange, la composition, l'enchaînement, la densité, et toutes les autres différences, telle est la main, le pied. Il nous faut donc saisir les genres des différences, et ces genres seront les principes de l'être. Ainsi, le plus grand et le plus petit, le dense et le rare, et les autres modes analogues peuvent se rapporter à un même genre, car tout cela se réduit au plus et au moins. La forme, le poli, le rude, se peuvent ramener au droit et aux courbes. Pour d'autres objets, être, ce sera être mélangé, le contraire sera le non-être. Il est évident, d'après cela, que si la substance est la cause de l'existence de chaque être, c'est dans la substance qu'il faut chercher quelle est la cause de l'existence de chacune de ces différences. Aucune de ces différences n'est donc substance, ni même la réunion de plusieurs de ces différences. Elles ont pourtant, avec la substance, quelque chose de commun. De même que pour les substances, lorsqu'on veut parler de la matière, par exemple, on parle toujours de la matière en acte. De même, et à plus forte raison pour les autres définitions. Ainsi, si l'on veut définir le seuil, on dira que c'est une pierre ou un morceau de bois disposé de telle façon. Une maison, que ce sont des briques ou des poutres disposées de telle manière. On définit encore quelquefois par le but. Enfin, si l'on veut définir de la glace, on dira que c'est de l'eau congelée, condensée de telle manière. Un accord musical, ce sera tel mélange du son aigu et du son grave, et de même pour tout le reste. Il résulte clairement de là que, pour les différentes matières, il y a différents actes, des notions diverses. L'acte est pour l'une la composition, pour l'autre le mélange, ou quelqu'un des autres caractères que nous avons signalés. D'où il suit que ceux qui définissent une maison en disant que c'est de la pierre, de la brique, du bois, parle de la maison en puissance, car tout cela est de la matière. Ceux qui disent que c'est un abri destiné à recevoir des hommes et des meubles, ou bien qui déterminent quelque autre caractère de ce genre, ceux-là définissent la maison en acte. Ceux qui réunissent ces deux espèces de caractères définissent la troisième substance. L'ensemble de la matière et de la forme, en effet, la définition par les différences est, ce semble, la définition de la forme et de l'acte. Celle qui ne porte que sur l'objet constitutif est plutôt la définition de la matière. Les définitions qu'a données Archytas sont de ce genre. Elles portent sur l'ensemble de la forme et de la matière. Ainsi, qu'est-ce que le calme ? C'est le repos dans l'immensité des airs. L'air est dans ce cas la matière, et le repos est l'acte et l'essence. Qu'est-ce que la bonasse ? C'est la tranquillité de la mer. Le sujet matériel, c'est la mer. L'acte et la forme, c'est la tranquillité. On voit clairement, d'après ce que nous avons dit, ce qu'est la substance sensible et dans combien de sens elle se prend. C'est ou bien la matière ou bien la forme quand il y a acte ou, en troisième lieu, l'ensemble de la forme et de la matière. Chapitre 3. Il ne faut pas ignorer que quelquefois on ne peut pas bien reconnaître si le nom exprime la substance composée ou seulement l'acte et la forme. Par exemple, si maison veut dire l'ensemble de la forme et de la matière, un abri composé de briques, de bois et de pierres disposés de telle manière, ou seulement l'acte et la forme, un abri. Ligne, signifie-t-il la diade en longueur ou simplement la diade ? Animal, exprime-t-il l'âme dans un corps ou simplement l'âme ? Car l'âme est l'essence et l'acte d'un corps. Dans l'un et l'autre cas, on pourra dire animal, mais ce sera dans deux sens différents, quoique tous deux se rapportent à quelque chose de commun. Cette distinction peut être utile ailleurs. Dans nos recherches sur la substance sensible, elle est inutile, car pour les sens, il y a toujours forme et acte. Il y a identité entre âme et forme substantielle de l'âme. Mais il n'y a point identité entre homme et forme substantielle de l'homme. À moins cependant que par homme, on ne veuille entendre seulement l'âme. Il y a de cette manière identité dans un sens, dans l'autre non. Si l'on veut y réfléchir, on ne dira pas que la syllabe résulte des éléments et de la composition, que dans la maison il y a les briques et la composition. Et c'est avec raison, car la composition, le mélange, ne sont pas quelque chose qui s'unit aux êtres composés ou mélangés. Et de même pour tous les autres cas. Ainsi, c'est par la position que telle chose est un seuil. Mais la position n'est point quelque chose en dehors du seuil. Ce serait plutôt le contraire. De même, l'homme n'est point l'animal et le bipède. Mais il faut qu'en dehors de cela, il y ait quelque autre chose, si l'animal et le bipède sont pris comme matière. Ce quelque chose n'est point un élément et ne provient point d'un élément. C'est l'essence. C'est ce qui, étant retranché, ne laisse subsister que la matière indéterminée. Si donc, c'est cette essence qui est cause de l'existence, si c'est elle qui est la substance, c'est à elle qu'il faut donner le nom de substance. L'essence doit être nécessairement éternelle, ou bien périr dans un objet, sans pour cela périr elle-même. Se produire dans un être, sans être sujette elle-même à production. Nous avons prouvé et démontré plus haut que personne ne produit la forme, qu'elle ne naît pas, mais seulement se réalise dans un objet. Ce qui naît, c'est l'ensemble de la matière et de la forme. Les substances des êtres périssables sont-elles séparées? C'est ce qui n'est pas encore bien évident. Toutefois, il est évident que pour quelques êtres, il n'en peut être ainsi. Tels sont les êtres qui ne peuvent avoir d'existence hors du particulier. Par exemple, une maison, un vase. Peut-être même, ces objets ne sont-ils point véritablement des substances. Peut-être doit-on dire que la forme naturelle est seule la substance des êtres périssables. Ceci nous fournit l'occasion de lever la difficulté posée par l'école d'Antisthène et par d'autres ignorants de cette espèce. Ils disent qu'on ne peut point définir la forme substantielle parce que la définition est une longue suite de mots. Qu'on peut bien faire connaître quelle est la qualité d'un objet, celle de l'argent par exemple, mais non pas dire en quoi il consiste. On dira bien que l'argent est analogue à l'étain. Or, il résulte de ce que nous avons dit, qu'il y a des substances dont il peut y avoir notion et définition. Ce sont les substances composées, qu'elles soient sensibles ou intelligibles. Mais on ne peut point définir les éléments premiers de ces substances, car définir une chose, c'est la rapporter à une autre. Il faut qu'il y ait dans toute définition, d'un côté la matière, de l'autre la forme. Il est évident aussi que si les substances sont des nombres, c'est à titre de définition, et non point, selon l'opinion de quelques-uns, comme composées de monades. La définition, en effet, est une sorte de nombre. Elle est divisible comme le nombre en partie indivisible, car il n'y a pas une infinité de notions dans la définition. Il y a donc, sous ce rapport, analogie entre le nombre et la définition. De même encore que si l'on retranche quelqu'une des parties qui constituent le nombre, ou si on y ajoute, on n'a plus le même nombre, mais un nombre différent, quelque petite que soit la partie retranchée ou ajoutée. De même, la forme substantielle ne reste pas la même si l'on en retranche ou si l'on y ajoute quelque chose. Ensuite, il faut qu'il y ait dans le nombre quelque chose qui constitue son unité. Et ceux qui le composent de monades ne peuvent pas nous dire en quoi consiste cette unité s'il est un. Car, ou bien le nombre n'est pas un mais ressemble à un monceau, ou, s'il est un, il faut qu'on nous dise ce qui constitue l'unité de la pluralité. De même, aussi, la définition est une, mais ils ne peuvent pas l'établir davantage, et cela est tout naturel. Elle est une par la même raison que le nombre, non pas, comme le disent quelques-uns, en tant que monade ou point, mais parce que chaque essence est un acte, une nature particulière. Et de même que le nombre, s'il reste le même, n'est pas susceptible de plus ou de moins, de même aussi la substance formelle. Toutefois, unie à la matière, elle en est susceptible. Que ceci nous suffise au sujet de la production et de la destruction des substances. Nous avons suffisamment établi dans quel sens on peut dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas possibilité de production et quelle est l'analogie de la définition et du nombre.